Radio Grand Ciel vous présente la 8e émission de Demain les énergies. Au micro, Paolo Davi, avec à l'autre bout du fil, Marc Blaiseau. Bonjour Marc.
Bonjour Paolo, bonjour à tous.
Comme nous l'avons déjà dit, nos émissions sont enregistrées par téléphone et donc la qualité sonore peut parfois être moins bonne. Et nous vous prions de nous excuser. Dans notre rubrique Quoi de neuf? Nous vous proposons aujourd'hui un sujet concernant les investissements dans les énergies renouvelables, qui pour la première fois vont dépasser les investissements dans les hydrocarbures. Surprenant, n'est-ce pas, Marc?
En effet, Paolo, la nouvelle a fait du bruit dans le milieu de l'énergie la semaine dernière, puisque la première fois dans l'histoire mondiale, effectivement, les investissements dans le pétrole et le gaz ont atteint un niveau très bas, minimum même, de 380 milliards de dollars en 2020, à comparer aux 880 milliards dépensés, je dirais, à l'apogée de l'industrie pétrolière il y a seulement 7 ans, dans les années 2013-2014. Donc c'est une chute considérable de près de 60%. Et dans le même temps, les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint, eux, 500 milliards de dollars. C'est le record, hausse, contre 300 en 2014. Donc là aussi, une progression de plus de 60%.
Assez net.
C'est très très net dans les deux sens. Les courbes se sont croisées. Bien sûr, la pandémie mondiale a défavorisé les projets pétroliers et gaziers en stoppant fortement la mobilité, le transport international. Mais à mon avis, c'est structurel. Ces chiffres sont le reflet d'une tendance lourde que la crise seulement, on pourrait dire, révélée. Sur le long terme, nous allons donc vers une civilisation de l'électricité, mais nous pourrions aussi manquer de pétrole à court terme, faute de ces investissements. Et alors que l'énergie électrique des renouvelables ne sera pas encore suffisante. Donc on a des années un peu charnières.
Au cours de deux dernières émissions, nous vous avons parlé des méthodes et des techniques utilisées dans la recherche des hydrocarbures. Ces activités d'exploration et de production sont appelées conventionnelles, par opposition aux techniques et méthodes non conventionnelles qui s'appliquent à la recherche et production de pétrole et de gaz de schiste cette fois-ci. En anglais, on les appelle shale oil ou shale gas. Shale, ça veut dire argile. Depuis les années 2005-2006, aux États-Unis, principalement en raison des prix très élevés du pétrole, un nombre important de ce qu'on appelle le petit indépendant pétrolier, par opposition aux grandes compagnies multinationales comme Exxon, Shell, BP, Total et d'autres, ont commencé une activité relativement nouvelle à une telle échelle, même si la production de gaz de schiste avait commencé déjà en 1821 à Fredonia, dans l'État de New York. La production des hydrocarbures à partir des roches compactes ou avec des porosités extrêmement faibles, d'où le nom shale veut dire argile, mais avec l'utilisation des techniques de fracturation hydraulique qui étaient déjà connues, et en plus des forages horizontaux, on a pu atteindre des productions d'huile et des gaz relativement importantes. Ces activités se sont développées dans nombre de bassins sédimentaires à terre. En mer, cette activité n'est pas rentable et on verra plus tard pourquoi. Le sujet des gaz et pétrole de schiste fait l'objet de fortes controverses, du fait des intérêts contradictoires et d'une sensibilité de la population plus réceptive aux impacts environnementaux directs et aux effets à long terme sur le réchauffement climatique, qu'aux enjeux de précarité énergétique et des stratégies géopolitiques à court terme. Des manifestations se sont déroulées dans de nombreux pays pour demander l'interdiction de l'utilisation de cette technique. En France, l'interdiction de la fracturation hydraulique a fait l'objet d'une loi dite loi Jacob du 13 juillet 2011, qui interdit toute tentative d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Mais Marc, essayons d'expliquer comment ces productions dites non conventionnelles fonctionnent. Et bien sûr, commençons par le début, c'est-à-dire où aller chercher, ou mieux, dans quel bassin sédimentaire peut-on développer ce type d'activité?
Ah, très bien, Paolo. Effectivement, nos éditeurs savent maintenant, on leur en parle souvent, ce qu'est un bassin sédimentaire. Eh bien, les conditions pour qu'un bassin sédimentaire soit intéressant pour ces activités non conventionnelles, dites de gaz et pétrole de schiste, mais que j'aimerais mieux appeler de manière plus correcte gaz et pétrole de roche-mère.
Ben oui, tout à fait.
Puisqu'il s'agit, en effet, de produire le pétrole et le gaz piégés dans les roches-mères, qui après enfouissement et donc augmentation de la pression et de la température, ont généré ces hydrocarbures par transformation de la matière organique, comme on l'avait vu la fois dernière, constituant très important de ces roches-mères, la matière organique.
Oh. Oui, donc Marc, ces hydrocarbures dont tu parles sont exactement les mêmes que les hydrocarbures dont nous avons parlé lors de notre précédente mission. Sauf que dans ces cas-là, les hydrocarbures générés par la roche-mère avaient migré, c'est-à-dire avaient été expulsés de leur roche-mère, et puis ils s'infiltraient entre les réservoirs, entre les fissures de la roche, vers d'autres endroits, jusqu'à se faire piéger. Dans notre cas actuel, par contre, ce que nous cherchons, c'est la partie des gaz et des pétroles qui est restée piégée dans la roche-mère. Et c'est la fracturation hydraulique qui va permettre de libérer ces hydrocarbures de leur matrice.
C'est exactement cela, Paolo. Nous revenons à notre recherche du bassin sédimentaire favorable. Il faut d'abord évidemment que le bassin sédimentaire contienne des roches-mères qui ont atteint les conditions de température pour produire naturellement le pétrole et le gaz,
Ah oui.
et que ces roches-mères soient déjà une certaine profondeur, disons de 2 à 3 000 mètres minimum.
Ouais.
Après, il faut que la formation soit suffisamment épaisse, plusieurs dizaines de mètres. Plus c'est épais, mieux c'est à la limite.
Ouais.
Qu'ils aient une bonne continuité, ces roches, et d'extension latérale. Mais cela ne suffit pas. Il faut en effet que ces roches présentent certaines caractéristiques mécaniques, spécifiques, en particulier une rigidité, une fragilité pour qu'on puisse y faire de nombreuses fractures générées par la fracturation hydraulique. Ces fractures-là sont indispensables pour libérer et produire les hydrocarbures contenus dans ces roches très compactes. Alors, un autre élément important est la profondeur de ces roches-mères. En effet, pour l'exploitation de ces pétroles et gaz, il faut réaliser énormément de forages, car la productivité des puits est faible. Hein, c'est moins de 500 barils par jour au début, et surtout, ça diminue très rapidement. Au bout de quelques mois, on est à quelques dizaines de barils seulement. Un puits conventionnel pour produire, lui, des milliers de barils par jour, hein, pendant plusieurs années. Si on veut comparer, à la fin, un puits non conventionnel, il aura produit peut-être 300 000 barils au cours de sa courte vie. Tandis qu'un puits conventionnel aura produit 3 à 30 millions de barils.
Ah ouais, c'est gigantesque, c'est 10 à 100 fois moins. Une sacrée différence, Marc, qui implique donc forer beaucoup de puits.
Eh oui, Paolo, tout à fait. Alors, la méthode la plus courante désormais, c'est de réaliser plusieurs forages très déviés à partir d'un seul site en surface pour aller dans toutes les directions. Ces forages déviés sont les futurs producteurs, ont une partie horizontale pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Hein. Au milieu, dans le cœur de la roche-mère, de la formation productrice. Pour cette raison, la profondeur verticale maximale, c'est plutôt de l'ordre de 2000 à 3000 mètres, quoi, maxi. Pour le moment, on ne peut pas tenter ce type d'exploration en mer, comme tu l'as dit, car les coûts de forage seraient beaucoup trop importants pour ces faibles productivités.
Ah oui, vu le nombre de forages à réaliser. En effet, Marc, donc nous devons repérer un bassin sédimentaire, onshore, qui a une belle roche-mère, et nous savons qu'avant de commencer à produire, il faut définir nos objectifs, les caractéristiques, l'épaisseur, l'extension latérale, la maturité des roches-mères, etc., pour pouvoir exploiter les gaz et le pétrole de schiste. Pour cela, on utilise exactement la même technique d'exploration utilisée pour la recherche des gisements conventionnels. Mais je crois, Marc, qu'il y a quand même des spécificités propres au pétrole et gaz de schiste.
En effet, Paolo, le géologue, le géophysicien étudie le sous-sol, sa composition, sa structure, grâce aux mêmes techniques, hein, surtout sismique, réflexion, pour arriver à une belle cartographie de la roche-mère. Mais dans le cas de gaz et pétrole de schiste, il n'est pas nécessaire de chercher des pièges, par exemple des dômes dont on avait parlé, puisque le pétrole et le gaz, en fait, ils sont piégés là où ils sont nés, dans la roche elle-même. Après, c'est un peu comme en exploration minière. Le nombre de forages, disons d'exploration ou d'appréciation, est plus important, et cela afin de valider les caractéristiques minéralogiques et pétrophysiques qui sont très importantes et qu'on ne peut atteindre que par forage, pour préciser la zone d'intérêt. Les coûts de ces forages, en général verticaux, hein, en exploration, sont relativement faibles. Et donc, il est possible d'en faire davantage. Et lors de ces forages, alors, on va récupérer un maximum d'échantillons, par exemple des carottes des formations géologiques qui nous intéressent, les roches-mères, des couvertures aussi. Elles seront étudiées au laboratoire ensuite pour savoir leurs caractéristiques, ben, mécaniques, et puis la richesse en hydrocarbures, bien sûr. On va faire des analyses très précises de ça. Tout cela afin de vérifier les caractéristiques complètes des couches de roches-mères de la future zone à exploiter.
Ouais. Très bien, Marc. Mais une fois cette phase terminée, si tous les indicateurs sont favorables, on commence donc la phase des réalisations des forages d'exploitation, avec, comme tu l'as dit, des forages déviés. C'est-à-dire que les forages commencent par une partie verticale, et puis, en fonction de la profondeur de la couche objectif, on commence une déviation vers une certaine direction pour in fine obtenir une partie pratiquement horizontale, qu'on appelle le drain, plus ou moins longue, qui peut aller entre 500 à 1000 mètres, voire plus dans certains cas, à l'intérieur de la future formation productrice. Cela permet de minimiser l'empreinte en surface et de réaliser plusieurs forages, entre 6 à 8, depuis un même site de surface, ce qu'on appelle un pad, ou un cluster. Mais Marc, avec quel espacement sont situés ces emplacements qu'on appelle donc, je répète, cluster ou pads? Cela est très important évidemment pour limiter les nuisances pour les populations et aussi pour l'environnement.
Tu as tout à fait raison, Paolo. C'est en particulièrement vrai ce que tu dis pour les phases de fracturation. Les clusters, comme tu les appelles, sont espacés avec un maillage régulier afin de bien exploiter l'ensemble de la roche-mère du bassin. Cet espace est variable, peut aller de 500 à 1500 mètres en fonction de la longueur de la partie horizontale des forages d'exploitation. Chaque forage drainant à peu près 2 à 3 km². Mais en ville, par exemple, l'espacement peut être bien sûr plus important. Et les pads sont généralement maintenant réalisés dans les parkings des supermarchés et dans tous les pistes d'aéroports. Mais le plus grand loueur de terrain pour le non conventionnel, c'est Walmart, hein, c'est pas Exxon,
Oui,
c'est les supermarchés.
très intéressant. Et donc, la technique la plus importante et la plus contestée d'ailleurs, utilisée pour la production du pétrole et gaz de schiste, est la fracturation hydraulique. On l'appelle hydraulic fracturing en anglais ou fracking, qui est une technique de fracturation des formations géologiques à faible perméabilité, vous vous en souvenez, on a parlé de perméabilité, par l'injection de fluides, essentiellement de l'eau, à très haute pression. Elle permet donc de générer des fractures, des drains artificiels dans la roche et d'extraire les hydrocarbures piégés dans ces roches. Cette technique était en effet bien connue, on l'a vu tout à l'heure en parlant de ce qui s'est passé dans la région de New York, par les professionnels du secteur pétrolier depuis plus de 80 ans. Juste après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, est déployé en France, dans les champs par exemple de Parentis, dans les Landes. Dans les années 60, cette technique a fait l'objet des controverses en raison des impacts environnementaux auxquels elle a été parfois associée aux États-Unis. La fracturation hydraulique est utilisée chaque année dans une dizaine de milliers de forages d'hydrocarbures, non pas seulement pour le pétrole et gaz de schiste, mais aussi par exemple dans les géothermies. Bon, on fera une petite pause musicale, Marc, à ce stade, et on va reprendre dans quelques instants. Donc Marc, nous parlions de la fracturation hydraulique. Il est sans doute utile d'en parler un peu plus et d'expliquer en quoi ça consiste, cette technique de fracturation hydraulique.
Oui, bien sûr, Paolo, il faut qu'on en parle. La technique de fracturation hydraulique, donc ça consiste à injecter un mélange d'eau, 95% de l'ensemble, c'est le vecteur de l'augmentation de pression, et puis 4, 4,5% de sable qui va servir à garder les fissures ouvertes après qu'on les ait créées, et 0,5% d'additifs chimiques. Ce mélange est injecté sous haute pression, souvent de 300 à 350 bars, hein, 2500 mètres de profondeur, dans les roches afin d'initier ces fractures. Alors, ce sont des fractures qui sont d'ouverture millimétrique, mais qui peuvent être longues de plusieurs centaines de mètres dans le sens horizontal. Et on veut les étendre et les maintenir ouvertes après, parce qu'il ne faut pas qu'elles se referment. Donc, c'est les grains de sable qui vont permettre de les maintenir ouvertes. Alors, la fracturation hydraulique, elle est pratiquement systématiquement associé maintenant, tu l'as dit, à la technique du forage horizontal, qui consiste à orienter en profondeur l'axe du forage dans la couche rocheuse sur 1 à 3 km. On peut même dépasser maintenant 3 km. Alors on a un emboîtement de tubage d'acier cimenté le long des parois qui permet d'isoler totalement le puits et d'éviter les fuites d'hydrocarbures ou des fluides de fracturation injectés aussi, et qui permet en particulier de protéger les nappes phréatiques dans les premiers mètres du sol. Par la suite, après la fracturation, un mélange de gaz, d'huile remonte à la surface ainsi qu'une partie de l'eau et des additifs qu'on avait injectés. Ils sont maintenant systématiquement récupérés pour être réutilisés dans le puits suivant. On gagne un peu d'argent comme ça. Mais on utilise le volume de plusieurs piscines olympiques d'eau pour réaliser la fracturation d'un seul puits.
Oui, donc Marc, nous avons, je répète un peu, vu que les parois du puits sont complètement recouvertes par des tuyaux d'acier, hein, de plusieurs millimètres d'épaisseur, qui sont cimentés, et avant de procéder à la fracturation hydraulique, une série de trous de faible diamètre, de l'ordre de 12 millimètres, hein, est percée le long de la partie horizontale du puits. Donc on perce les tuyaux et ces trous permettent le contact avec l'eau qui réalise la fracturation sous forte pression. Et cette fracturation est maintenue ouverte par des grains de sable qui évitent, qui empêchent à la roche de se renfermer. Il y a en plus des adjuvants chimiques, on en parlera plus en détail tout à l'heure. L'injection du fluide de fracturation peut durer quelques heures à quelques jours. Et ça, c'est un point qui peut être délicat en termes de nuisance pour la population. Il est possible de répéter plusieurs fois ces processus de fracturation sur un même puits afin de réactiver les réseaux de fissures lorsque la production du puits diminue. On qualifie cette opération de multifracking. Bon, Marc, il est nécessaire d'expliquer plus en détail ces techniques de fracturation et notamment les fluides et les produits utilisés. Donc, tu as déjà donné une information sur les compositions de fluides qu'on injecte, mais essayons d'aller un peu plus dans les détails.
Oui, d'accord. Donc, on a dit que le fluide de fracturation, c'est 95% d'eau, 4,5 de sable et puis approximativement 0,5% d'additifs chimiques. Alors, ça peut varier la composition d'un industriel à l'autre. Alors, l'eau est le fluide vecteur de la pression, c'est principal, hein, qui permet de briser la roche, de transporter le sable. Aujourd'hui, l'eau douce est privilégiée, principalement pour dissoudre les sels contenus dans la roche réservoir et faciliter ainsi l'accès aux hydrocarbures. Le sable est utilisé comme agent de soutènement. On parle souvent de propant en anglais. Il s'insère dans les fissures ouvertes, comme on l'a dit, pour empêcher la roche de se refermer. La couche géologique, alors, qui était compacte, devient perméable grâce à ces fissures. Et ça facilite l'écoulement du gaz et de l'huile jusque-là emprisonnés dans la roche. Y compris quand l'injection d'eau sous pression est interrompue. Les fissures vont pouvoir produire quelques semaines à quelques mois. Alors, le sable peut être remplacé par d'autres agents de soutènement, tels que des billes de verre, de métal, de céramique surtout, qui est très utilisé maintenant. La quantité, la nature des produits chimiques varie d'un bassin, même d'un réservoir à l'autre, selon les caractéristiques du milieu à fracturer, en particulier la température, la perméabilité, la profondeur, la nature de la roche. Alors, les produits chimiques utilisés sont de quatre grands types. Des biocides, hein, ou des désinfectants, pour éliminer l'activité bactérienne, on a mis de l'eau douce, donc il y a des bactéries avec, et on ne veut pas qu'elles se développent dans le réservoir, ça le fermerait. Des réducteurs de friction pour faciliter la circulation d'eau, diminuer la consommation d'énergie, diminuer un peu la pression des pompes aussi. Des gélifiants, des épaississants qui permettent d'accroître la viscosité de l'eau. Ça, c'est pour garder le sable en suspension et le transporter jusque dans les fissures les plus éloignées. Il ne faut pas qu'il tombe au fond du trou. Et des savons aussi, permettant de casser l'effet gélifiant des produits précédents avec un effet décalé dans le temps. Il y a un retardateur pour le savon, afin que le retrait du fluide vers la surface, une fois le fracking terminé, cesse d'entraîner le sable. Le sable, il a vocation à rester dans les fissures de la roche le plus longtemps possible. Alors, désormais, les fabricants d'additifs essayent d'utiliser des produits d'usage courant, à la grande consommation, hein, pour diminuer les coûts. Alors, la composition, elle est restée longtemps inconnue dans le passé, sous couvert de secrets professionnels, industriels, ce qui a renforcé un peu les craintes du grand public. Mais en 2010, le Sénat américain et l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, ont demandé aux grands opérateurs utilisant la fracturation hydraulique de publier la liste de leurs produits chimiques complètes utilisés dans ce qu'on pourrait appeler ce cocktail de fracturation. Et désormais, donc, la liste des additifs utilisés est rendue publique systématiquement.
Donc Marc, on voit que, mis à part l'eau et les sables qui sont dans des quantités importantes, ces fluides de fracturation contiennent des quantités extrêmement limitées des produits chimiques. Bon, les fameux 0,5%, mais ça peut être aussi beaucoup moins. Et qui en plus sont des produits qui ne sont pas dangereux puisqu'ils sont d'utilisation courante dans d'autres domaines. En plus, nous savons que les puits et les tuyaux d'acier qui sont cimentés, les tuyaux d'acier qu'on appelle les casings, empêche la communication entre les différentes zones, les différentes couches du puits. Jusqu'ici, donc, en principe, je ne vois pas de risque pour l'environnement.
Oui, en effet, Paolo, la pollution et la contamination des nappes phréatiques qui a été imputée à des fracturations hydrauliques aux États-Unis a suscité l'inquiétude du grand public, en particulier en Europe d'ailleurs, là où ça se fait pas. Cette inquiétude a été exacerbée par le film Gasland, qui montrait une flamme se former lorsqu'on ouvrait l'évier de son lavabo hein, et qu'on y approchait un briquet. Mais l'administration américaine a montré dans un de ces cas que la fuite était due à un défaut de cimentation du puits qui avait été sanctionné et donc qui avait été réparé. Et dans les autres cas, il s'agissait de méthane biogénique résultant de la dégradation naturelle de la matière organique présente dans l'aquifère, comme on en connaît partout, hein, sous le nom de gaz des marais en France, par exemple. Dans d'autres cas, la contamination de nappes phréatiques identifiées était due à des défauts d'échantillonnage des puits et non à la remontée des produits chimiques. Alors, ceux-ci sont généralement injectés entre 1000 et 3000 mètres de profondeur au niveau des couches rocheuses de roche-mère, donc bien plus profond que les nappes phréatiques et que les aquifères d'eau douce potable qui affleurent à la surface terrestre à peu près jusqu'à 500 mètres de profondeur, pas plus. Et les fissures dues à la fracturation hydraulique ne s'étendent pas sur des distances de plus de 100 mètres verticalement. Donc, c'est presque impossible d'avoir des accidents. Et notons aussi que les couches rocheuses sont particulièrement fissurées naturellement. Donc,
Oui,
ce
en
n'est pas
effet.
quelque chose de nouveau.
Oui,
Les fissures et les plaies, ça arrive à exister à terre aussi,
oui. Oui,
naturellement.
en effet, Marc. Donc, effectivement, les dangers éventuels ne viennent pas forcément de ce type d'activité de gaz et pétrole de schiste. Il y a aussi souvent des critiques liées au risque sismique, c'est-à-dire de mini-tremblements de terre. Et que pouvons-nous dire là-dessus, Marc?
Alors là, le risque d'induire une sismicité suite à des fracturations hydrauliques a été également avancé, à juste titre à mon avis. On a vu plusieurs tremblements de terre de faible ampleur, effectivement,
Oui,
et
notamment
à
en
ce sujet,
Angleterre, non,
en Angleterre,
oui.
effectivement, ouais, par l'exploitation du gaz de schiste, mais aussi en Suisse, d'un forage géothermique.
Ah oui.
Ça, la propagation des fissures dans la couche rocheuse fracturée libère effectivement de l'énergie, donc de la sismicité. Celle-ci sera en moyenne équivalente à celle de la chute d'un livre sur une table, hein. C'est pas non plus exagéré.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des séismes un peu plus forts, mais on doit pouvoir limiter ces séismes, ne pas se mettre trop près d'une zone de faille active, par exemple, préexistance, et puis avoir une bonne reconnaissance géologique du sous-sol, géophysique surtout, pour éviter de se placer auprès de ces failles.
Oui, donc Marc, effectivement, il me semble que même dans ces cas, il n'y a pas vraiment de réel danger. Bien sûr, il faut faire les études nécessaires pour éviter certains problèmes, donc ne pas se mettre à côté des failles actives. Mais venons à d'autres aspects de cette activité des gaz et pétrole de schiste qui sont, à mon avis, plus délicats et peut-être plus importants et qui méritent d'être étudiés en détail. Je pense notamment à l'eau utilisée dans des grandes quantités lors de fracturations.
Alors exactement, c'est juste puisqu'on utilise entre 10 000 et 15 000 mètres cubes d'eau. Ça fait 10 à 15 millions de litres hein, pour le forage de chaque puits d'exploitation de gaz de schiste. Chaque forage a à peu près 10 fracturations, soit l'équivalent de 4 à 5 piscines olympiques. Près du tiers du volume d'eau est utilisé pour le forage lui-même, mais le plus important, c'est les 2 tiers restants de l'eau est utilisé pour la fracturation, donc pour la montée en pression et régénérer les fractures. Alors, l'origine de l'eau constitue une problématique, ça qu'on ne peut pas nier, je crois. Elle est importante. Elle est prélevée dans un milieu naturel. Faut veiller à ne pas en perturber l'équilibre. Et on va avoir des conflits liés à l'arbitrage de l'usage. Ça peut se développer, par exemple, entre les exploitants d'un champ pétrolier et des agriculteurs ou d'autres industries très consommatrices d'eau aussi, comme l'agroalimentaire. Pour éviter ces conflits d'usage, ben, les opérateurs cherchent maintenant à utiliser des ressources en eau non potable, donc qui provient d'aquifères plus salés, plus profonds, et puis ils recyclent un maximum l'eau utilisée, même si le recyclage n'est jamais total, c'est quand même très important de le faire. Après les opérations de fracking, les taux de remontée de récupération de l'eau donc peuvent varier entre 10 et 90 %, hein. Donc, on peut améliorer significativement ce recyclage.
Ouais.
Et le traitement de cette eau doit permettre de la rendre à nouveau disponible pour d'autres usages et en particulier d'autres puits à fraquer. Alors, une attention particulière doit être portée au traitement des minéraux présents dans le gisement qui vont être lessivés par cette eau de fracturation et qui vont, pour petite partie, mais pouvoir remonter aussi quand on va recycler l'eau, en particulier les métaux lourds ou des minéraux radioactifs.
Ouais. Eh bien, Marc, il me semble que c'est bien là le vrai problème de ce type d'exploitation de gaz et pétrole de schiste. L'eau, son approvisionnement, son traitement, son recyclage. Ce sont sûrement des raisons valables pour limiter, voire empêcher, dans certains cas, les exploitations. Il faut savoir qu'à titre de comparaison, une collectivité de 12 000 habitants consomme en moyenne 5 millions de litres d'eau par jour, à comparer avec, comme tu viens de dire, les 10 à 15 millions de litres utilisés pour un seul puits. Mais Marc, il n'y a pas de technique alternative pour la fracturation ou pour générer les fissures dans la roche?
Alors, on a dit en France, Paolo, que la loi du 13 juillet 2011 interdit la technique de fracturation hydraulique.
Ouais.
Mais elle autorise aussi la recherche de techniques alternatives. Alors, plusieurs autres fluides pourraient se substituer à l'eau. Le propane en particulier, le gaz carbonique. À l'heure actuelle, seule la fracturation au propane liquéfié est une technique mature. Environ 1500 fracturations aux États-Unis et au Canada qui ont été faites au propane. Mais le propane, ben, c'est un hydrocarbure, donc c'est explosif, et les problèmes de sécurité font l'objet d'une attention très particulière.
Ouais,
D'autres techniques pourraient être envisagées. La fracturation au gaz carbonique, on utiliserait le gaz carbonique sous sa forme supercritique,
oui. Oui, le
donc
gaz carbonique,
un
c'est les CO2,
le CO2
hein.
exactement, le gaz à effet de serre hein, dont on a parlé.
Ouais.
Mais bon, c'est pour le moment c'est un peu difficile, c'est coûteux, techniquement compliqué. On a parlé de fracturation électrique, donc c'est Shell qui avait regardé ça, qui consiste à créer des ondes de choc par le biais d'arcs électriques très puissants. C'est assez difficile de descendre ça dans des puits, c'est très énergivore, donc ça demande beaucoup d'électricité, donc pas tellement efficace quoi, on
Ouais,
l'utilise pas en fait
ouais.
aujourd'hui. La fracturation pneumatique, hein, qui consiste à injecter de l'air comprimé, un peu comme le marteau-piqueur des mineurs.
Ouais.
Donc ça, c'est assez efficace, mais ça nécessite beaucoup d'air comprimé et beaucoup d'énergie pour la comprimer.
Ouais.
Et puis la fracturation par choc thermique, ça aussi, ça avait été regardé par des grandes compagnies comme Exxon et Shell, et fracturer la roche par injection d'eau froide en profondeur. Ça reste aussi pour le moment un peu, comment je pourrais dire, anecdotique. Donc, on reste dans des phases de laboratoire à l'heure actuelle. Et parallèlement, la technique de fracturation hydraulique et surtout, comme je disais, le recyclage de l'eau de cette fracturation ont très progressivement, significativement augmenté. Donc, ça permet de réduire la consommation totale d'eau et même de produits chimiques. L'autre question, c'est quelquefois le sable aussi, hein.
Ah
Il y a des endroits
oui.
des États-Unis où on manque de sable, donc on est obligé de le transporter par énormes camions. C'est une noria de camions qui est aussi très gênante pour l'environnement et le bruit.
Ouais. Donc Marc, nous pouvons conclure que pour la fracturation hydraulique, pour que la fracturation hydraulique soit mieux acceptée par tout le monde, par la population, par les États, les industriels y ayant recours doivent démontrer que celle-ci est susceptible d'être opérée sans risque de pollution, sans risque de contaminer les nappes, sans les émissions de gaz à effet de serre, etc. Cette démonstration passe notamment par la réglementation étatique stricte, une rigueur dans la réalisation des forages, indépendamment du type d'hydrocarbures exploités. Les recherches menées par différents industriels devraient permettre d'améliorer et de rendre plus sûres et fiables les techniques existantes et de disposer à moyen terme des techniques alternatives à la fracturation hydraulique, dont il faudra mesurer les coûts et les avantages. Dans notre prochaine émission, nous quitterons les combustibles fossiles. Peut-être on parlera encore un petit peu des huiles lourdes. Puis, nous intéresserons aux sources renouvelables, comprenant les solaires, l'éolien, l'hydroélectrique. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site web www.radiograndciel.fr. Et aussi, si vous en avez envie, nous vous invitons à nous écrire. À bientôt!
Bientôt à toutes et à tous.